Comme je vous le disais, je suis avec Marion. Bonjour Marion.
Bonjour.
Voilà, je suis avec Marion de la ferme de Couveau. On ne dit pas du Couveau, on dit
non, c'est de Couveau.
Voilà, la ferme de Couveau. On a tendance à dire du Couveau, mais c'est de Couveau. À la Roche-Millet, c'est
tout
ça ?
Tout à fait.
Voilà, située à la Roche-Millet. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir
merci de m'accueillir.
De te recevoir. C'est vraiment super parce que, comme je le disais ce matin, avant que tu arrives pour t'annoncer à nos auditeurs, je crois que tu étais vraiment avec un éleveur qui est au marché souvent. Je crois que tu es une des premières productrices que j'ai rencontrées en arrivant à Luzy, puisque moi ça fait 7-8 ans que je suis à Luzy. Et je me souviens bien parce que, comme j'expliquais, je faisais des yaourts et je prenais ton lait cru à l'époque. C'était à la MAP.
Au début de la MAP.
Au début de la MAP, voilà. Marion, donc tu vas un petit peu nous raconter ta vie avec ton compagnon Jérôme, c'est ça, puisque vous êtes tous les deux à vous occuper de la ferme, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On est installés tous les deux donc depuis 2015 à la Roche-Millet. Mon compagnon avait déjà ses vaches avant, mais il était dans les Deux-Sèvres avant. D'accord. Donc on a ramené le troupeau ici en 2015 parce que lui cherchait une ferme. Il était dans une situation un peu précaire avec ses animaux, donc il cherchait vraiment une ferme là-bas qu'il n'a jamais trouvée. Et moi, comme je suis de la Nièvre, j'avais bien envie de rester par ici.
Ouais.
Et on a trouvé une ferme assez vite, donc on s'est dit qu'il fallait déménager.
T'es voilà. D'où de la Nièvre ?
Allez. Moi, je suis de Nevers.
T'es de Nevers ?
Voilà.
Ah ouais, t'as grandi à Nevers ?
Oui, tout à fait.
Ah ouais, sympa. Moi, je ne connaissais pas grand monde de Nevers, mais c'est bien. On pourra en discuter après. Donc, du coup, tu as la famille, tout ça, à Nevers ?
J'ai mes parents qui sont toujours là.
Qui sont sur Nevers, d'accord.
Oui, mais qui ne sont pas du tout éleveurs, pas du tout dans l'agriculture.
Voilà. Ah oui, parce que toi, tu étais dans quoi avant ?
Moi, j'ai fait mes études pour travailler en forêt. J'ai toujours voulu travailler en forêt. Donc, voilà, j'ai fait mes études pour ça, mais je n'ai jamais travaillé en forêt.
Et tu as rencontré ton compagnon dans les Deux-Sèvres, c'est ça ?
Tout à fait. Je faisais du woofing là-bas. Alors, je ne sais pas si ça parle.
Ah ben, on va expliquer. Bah, explique-nous ce qu'est le woofing.
Alors, le principe, c'est d'aller dans des fermes ou des structures un peu alternatives. Et donc, on est nourri, logé en échange d'un coup de main sur la ferme ou dans la structure.
Et ça permet aussi, enfin moi, le woofing, c'est aussi ça, ça permet un peu de découvrir le travail des maraîchers ou des éleveurs,
de voir
un petit peu comment ils fonctionnent. Il y en a beaucoup comme ça qui ont fait d'abord du woofing pour ensuite s'installer, parce qu'au moins ils allaient voir peu partout.
Ça permet de découvrir différents endroits et puis différents métiers, de le quotidien des gens, et voilà.
Ouais, c'est simple, parce que du coup tu vis avec les gens.
Tout à fait,
ouais.
Tout à fait.
Donc, des Deux-Sèvres, vous êtes arrivé ici. Alors, du coup, c'est ton compagnon, lui, c'était son métier de base
Disons qu'il était plutôt, quand il était dans les Deux-Sèvres, il était guide batelier, mais ça laissait quand même du
c'est
temps
quoi,
à côté.
Guide batelier ?
Alors, dans les Deux-Sèvres, il y a beaucoup de canaux, ça s'appelle la Venise verte. Il y a beaucoup de canaux et donc il y a des promenades en barque. Un peu, ce qui s'est poussé un peu comme à Venise, quoi, avec des pigouilles, on appelle ça.
Ouais, d'accord.
Et donc, il faisait ça, mais ça laisse aussi du temps à côté. Donc, il a commencé à avoir quelques chèvres, puis quelques vaches, et puis voilà.
Et puis
après, l'idée de s'installer vraiment est venue.
D'accord, il s'est installé, vous êtes rencontrés, les Deux-Sèvres, vous avez décidé de quitter. Vous êtes venus ici à la Roche-Millet. La Roche-Millet, c'est tombé, pourquoi ? Parce que vous avez trouvé le lieu ou c'est parce que c'était la Roche-Millet qui vous intéressait ?
Alors, on cherchait à s'installer en Sud-Morvan parce qu'on trouvait que le Sud-Morvan était vraiment chouette.
C'est vrai.
Et il se trouve que oui, on a trouvé une ferme à la Roche-Millet. On a visité deux autres fermes, mais celle-là correspondait vraiment à ce qu'on cherchait.
Comment ça se passe quand on trouve une ferme comme ça pour ramener les animaux ? Vous aviez combien de vaches à l'époque ?
On avait une dizaine de vaches.
Une dizaine de vaches.
Un transporteur qui est venu.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que pour découvrir le lieu, s'installer, les vaches, pour faire le pré, tout ça, comment ça se passe ? Vous arrivez, puis ça y est, on pose les vaches ou quand même on vient un petit peu avant pour préparer les prés ?
Alors, la ferme était toujours en activité, donc tout était opérationnel. Voilà. Après, on a dû venir quand même plusieurs fois, évidemment, pour visiter, pour faire les papiers, tout ça. Donc, il fallait faire garder les vaches le temps où on venait ici.
Parce que vous êtes que tous les deux
oui, tout à
travailler sur la ferme, d'accord. Donc vous vous proposez quoi en fait à la ferme de Couvaux?
Alors nous, on traîne nos vaches et donc on propose du lait cru, alors uniquement à la MAP, à l'USI.
Ah oui, voilà. Pas au local paysan.
Pas au local paysan.
Pour
oui.
quelle raison?
Parce que c'est compliqué légalement d'embouteiller. Voilà, bon, faudrait venir livrer le lait frais. Enfin,
ah oui,
voilà, d'un point de vue logistique, c'est un peu complexe. Donc, il y a une autre ferme qui met du lait frais au local et c'est très bien.
Oui, c'est vrai qu'il doit y avoir une contrainte hygiénique qui est assez importante.
Oui, voilà. D'accord. Et autrement, avec le gros de notre lait, on transforme en yaourt et en crème dessert, divers et variés, donc chocolat, café, riz au lait, voilà, et puis plein de déclinaisons de yaourt.
Alors comment ça se passe la transformation? Parce que le lait cru, normalement, alors moi je me souviens, parce que quand je faisais les yaourts, lait cru, il faut d'abord le faire bouillir, donc c'est ça la pasteurisation en fait?
Oui, alors les yaourts sont effectivement, le lait est pasteurisé, mais... puis ensemencé, oui.
Et comment tu fais pour pasteuriser? Parce que vous avez quand même une production importante.
Oui, alors ça reste quand même une toute petite ferme, une toute petite production.
Ouais.
On transforme en moyenne 25 litres de lait par jour, donc c'est très faible.
Ouais, 20, oui,
c'est vraiment faible.
C'est faible,
voilà.
Ah ouais, d'accord.
Mais ça nous va très bien.
Pour moi, c'est beaucoup, 25 litres. Mais j'imagine, oui, effectivement. C'est pas... Donc, comment ça se passe? Vous avez eu un...
On a notre labo.
Un labo
voilà, on a construit un laboratoire, enfin, une fromagerie, quoi, à la ferme.
On appelle ça une fromagerie, un labo?
Oui, on l'appelle fromagerie. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas de fromage. On ne fait plus de fromage. On faisait du fromage blanc avant, mais on a arrêté.
Pour quelle raison?
C'est trop compliqué. J'avais plus envie, en fait.
Ah, voilà.
Tout simplement.
C'est une bonne raison.
Oui, tout
d'accord.
Simplement.
Donc là, vous avez un labo pour pasteuriser le lait.
C'est ça, on dit, oui.
Ensuite, quand tu dis en lancement, c'est que tu mets du...
Tout le process du yaourt, voilà. Ouais. On va mettre les ferments, on met en étuve quelques heures. Et puis, quand les yaourts sont pris, on les met en chambre froide. Et voilà, c'est prêt.
Et c'est prêt, d'accord. Mais alors, pour donner le chocolat, le yaourt au chocolat, c'est pareil vous...
Ah, c'est d'autres process, mais oui, c'est...
C'est la même chose.
C'est ça.
Tu ensemences, et puis après tu mets le chocolat.
Ah, c'est plus la cuisson, là, c'est plus... Il n'y a pas de ferment dans les crèmes dessert.
Ouais. La cuisson, c'est un moment important, la cuisson des yaourts. Parce qu'il faut un certain temps, non? Combien de temps?
Pour les crèmes dessert.
Toi, c'est les crèmes dessert, mais tu fais les yaourts aussi.
Oui, mais les yaourts, c'est vraiment une question de ferment. Il n'y a pas de cuisson. Il faut le chauffer, effectivement, mais il n'y a pas de cuisson.
Mais tu le chauffes...
On a une cuve de pasteurisation qui est alimentée par une chaudière à bois.
Ouais. En plus, chaudière à bois, bravo.
Voilà, comme ça, on peut faire notre bois dans les haies et ça sert à chauffer la fromagerie, à faire l'eau chaude et puis à chauffer le lait aussi. Ouais.
Ah oui, autonomie complète.
C'est ça.
Ouais, ça, c'est une bonne idée. Et ok. Donc, les crèmes dessert, il faut les faire chauffer.
Oui.
Là, c'est plus long.
C'est pasteurisé aussi, voilà. Bah, c'est...
Tout est surveillé, bien cadré.
Oui, ouais. Maintenant, j'ai mes repères.
T'as tes repères, d'accord.
À force.
Mais alors, c'est... Parce que tu me disais hors antenne, il y a des périodes pour le lait, pour les vaches. Donc, quand il n'y a plus de lait, vous faites comment? Vous n'en faites plus, alors?
Bah, on a toujours un peu de lait, quand même. Toute l'année, on fait la traite. Après, il y a des périodes où on en a moins. Et donc, on va arrêter de vendre du lait cru, par exemple, pour avoir plus de lait pour transformer.
D'accord.
Voilà, on essaie de s'équilibrer comme ça, mais... notre problème, c'est que le taureau est toujours avec les vaches. Donc, évidemment, chaque année, ça se décale un petit peu selon comment elles viennent en chaleur et quand est-ce qu'elles mettent bas.
Ah bah
voilà,
oui,
on n'a pas trop de vision là-dessus.
Oui, à long terme.
Mais on s'adapte, on prend comme ça vient.
Alors, on viendra après à la viande, mais faire des yaourts, du fromage blanc, tout ça, enfin, plus du fond, tu n'en fais plus, la crème dessert, c'est un travail à plein temps?
Comment ah oui, complètement, oui.
C'est vrai.
Entre la transformation et la vente, oui, ça prend beaucoup de temps, mais c'est chouette de pouvoir aller jusqu'au bout du produit, de rencontrer les clients, voilà, d'avoir un échange. Je trouve que ça donne du sens à ce qu'on fait.
Mais ça, c'était quelque chose que vous aviez décidé dès le départ, quand vous êtes arrivé, de faire les yaourts, ou c'était au départ, c'était que de la viande plutôt?
Non, c'était vraiment le lait. Alors moi, comme je suis de la Nièvre, j'avais plutôt un projet viande parce que c'est ce que j'ai toujours vu. Mon conjoint, lui, est originaire de la Somme, donc c'était plutôt des vaches laitières. Ses parents avaient des vaches laitières avant, donc ils ne voyaient pas ne pas faire de lait.
Ouais.
Et donc, bah, on a combiné les deux en choisissant une race ancienne, on va dire, enfin une race qui a failli disparaître et qui est mixte, qui s'appelle la Maréchine. C'est une vache qui est originaire donc, des marais de l'Ouest, là où était mon conjoint avant. C'est pour ça qu'on a des Maréchines. Et ces vaches, comme toutes les vaches avant, étaient utilisées pour le travail dans les champs, pour le lait, pour la viande. Et donc, il y a un plan de sauvegarde qui a été lancé, je crois, il y a peut-être une trentaine d'années. Ça fait quand même un peu d'années. Voilà, ouais. Parce qu'il ne restait plus qu'une trentaine de maréchines.
Ah oui.
Là, on est arrivé à 3000 bêtes.
Pourquoi les charolaises, il y en a plein, les maréchines, il y en a pas beaucoup. C'est quoi? C'est dû à la viande? C'est une sorte de viande particulière ou c'est parce qu'elles sont plus fragiles que d'autres ou...
Non, c'est que elles sont moins productives en viande que des charolaises, beaucoup moins productives en lait que des Primolstein par exemple. Et comme maintenant on s'en sert plus non plus pour le travail des champs, ça a été un peu abandonné comme énormément de races.
Et vous, dans ces cas-là, vous avez les deux. Mais comment ça se passe, par exemple, une vache qui va mettre bas, donc qui va véler, c'est ça?
C'est ça.
Bien retenir le terme. La vache qui va véler, vous gardez le veau un certain temps. C'est des vaches qui vont véler durant combien d'années après? C'est tous les ans?
Oui, c'est tous les ans. Alors nous, le problème, c'est que souvent les mises bas sur les vaches, c'est vraiment assez régulier. Chaque année, à peu près la même période, elles vont mettre bas. Nous, elles ont tendance à raccourcir le délai entre chaque mise bas.
Ah oui.
Ce qui fait que des fois, il y en a qui ont pu faire deux veaux dans la même année, ce qui est un peu compliqué pour elles après. Et après, les veaux, on les garde 6 mois sous la mer. Donc, ils sont séparés tous les soirs pour qu'on puisse faire la traite le matin.
Ouais.
Et après la journée, ils vont au pré avec leur mère.
D'accord.
Voilà. Et les vaches, ça dépend des vaches. Il y en a qui en gardent plus longtemps que d'autres. On en a fait partir une à 17 ans.
Mais alors, quand vous les faites partir tard, ce sont des vaches qui vont être transformées pour de la viande ou... Oui, directement.
Oui, après, on adapte évidemment la découpe à la vache. Les vieilles vaches sont plutôt passées en haché ou...
D'accord, ok. Et alors, juste pour comprendre, là, donc vous avez combien de vaches actuellement?
On a une vingtaine de vaches.
Une vingtaine de maréchines, donc c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Une vingtaine de maréchines. Et quand vous avez des veaux, de temps en temps, parce que je compare avec l'éleveur que j'ai eu l'autre jour, là, on en discutait, il expliquait que il garde, bien sûr, il fait une sélection sur les bêtes qu'il va garder pour les laisser, pour les garder ensuite, pour augmenter un petit peu son... Est-ce que c'est la même chose?
Alors oui, on garde certaines génisses. Après, évidemment, il faut choisir.
Ouais, c'est
qui
bon.
Qui n'est pas la partie la plus chouette, mais il faut choisir qui on garde et qui on garde pas. Et puis après, on vend aussi de la viande de veau et voilà, ils partent.
Mais alors, quand vous gardez les génisses, est-ce que vous faites aussi pour la reproduction? Est-ce que vous faites aussi je crois que je disais des génotypages pour
non,
savoir
non.
Non, du tout.
Non.
Ah, ok.
non, après on regarde l'historique, voir qui était la mère, qui était le père, le grand-père, tout ça, mais
parce
c'est
que là,
purement
là,
visuel.
Si vous avez un taureau, donc c'est le même taureau que vous avez.
On en change.
Ah, vous changez
de taureau.
Oui, on
en change, évidemment.
D'accord.
Oui. Alors, c'est un peu le problème d'avoir des maréchines. C'est que le berceau de la race étant loin, ça complique un peu pour avoir des taureaux.
Ah ouais.
Donc, après, on aime bien les mélanges. Donc, on a aussi fait des croisements quand même. On avait acheté un taureau Highland. Enfin, voilà.
Ouais, alors,
oui, ça va. Ça a été, oui, ça fait des petites bêtes, mais...
Ah oui, voilà. C'est pas le même. Ah oui, bien sûr.
Oui, oui.
Mais comment vous êtes sûr que ça va aller ensemble entre les différentes races?
Ça marche toujours.
Ça marche toujours.
Oui, ça marche toujours. Après, c'est un peu... On a des veaux surprises,
Par exemple?
Bah, on ne sait jamais ce que ça va donner.
Bien sûr.
Parce que d'une année sur l'autre, ça peut changer. Avec le même taureau et les mêmes vaches, il y a une année où ils ressemblaient tous au père et une année, ils ressemblaient tous à la mère. Voilà.
Donc, oui, bien sûr, ça j'imagine.
Et la magie de la génétique.
Ouais, c'est clair. Mais du coup, le taureau, alors une fois que... Si vous gardez une génisse, il est certain que cette génisse, elle ne doit pas aller avec ce taureau.
Tout à fait.
Donc vous les séparez.
Oui. Bah, de toute façon, les petites qu'on garde sont séparées à 8 mois maximum. Il y a un troupeau juste avec des génisses. Puisque comme on a les taureaux en permanence dans le troupeau, il ne faudrait pas qu'elles soient saillies trop jeunes.
Ah ouais. Voilà. Parce que normalement, ils ne laissent pas les taureaux en permanence. Comment ça se fait que vous les laissez? C'est pour,
on trouve
pour les
que
protéger.
C'est pour l'équilibre du troupeau, oui, qui est comme ça. Ouais. Et puis, ils sont vachement plus forts que nous pour voir les chaleurs et pour être prêts au bon moment.
Donc, oui, bien sûr.
Donc, c'est quand même plus simple comme ça. Comme on a des mises bas un peu toute l'année, il y a des chaleurs un peu toute l'année aussi, quoi. C'est pas vraiment tout.
Donc vous savez, vous pouvez pas prévoir quand est-ce que il va y avoir un vélage. Ça peut être n'importe.
Enfin, on pourrait noter quand on les voit en chaleur, quand on voit le taureau après, on peut noter ça. Et puis s'il n'y a pas de retour 3 semaines après, c'est qu'elle est pleine.
C'est qu'elle est pleine. Ah bah oui, bien sûr. J'ai du mal à... Ok, je découvre aussi un petit peu, c'est pour ça. Donc c'est, là aussi, c'est... Alors, une vingtaine de maraîchines, c'est pas non plus un gros troupeau.
Non, c'est tout petit, oui.
C'est un petit troupeau. C'est quand même... C'est un boulot aussi à plein temps, j'imagine, parce que tous les jours, il faut aller vérifier comment ça se passe. Il faut les nourrir. Vous les laissez au pré tout le temps
Alors, on a une partie du troupeau qui reste dehors à l'année. Après, celles qu'on trait, elles vont dehors aussi toute l'année, mais elles rentrent quand même l'hiver, elles rentrent le soir, on les attache pour qu'elles mangent le foin. Et souvent, même si elles ont le choix d'aller dehors ou pas, elles restent au bâtiment la nuit.
Ouais.
Et puis après la traite du matin, elles repartent dehors, oui.
Parce que la traite du matin, c'est pour faire les yaourts et les crins. Et sinon, quand elles sont dehors, c'est pour les petits veaux.
C'est ça. Il n'y a qu'une seule traite. Le matin.
D'accord, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de production, effectivement. Donc, elles ont toujours assez de lait quand même pour leurs veaux.
Oui.
Ça
produit. Et puis, elles savent très bien en garder une partie pour leurs petits.
Ah ouais, d'accord, ok, je ne sais pas. Au niveau, alors juste une question, au niveau de vous êtes vous n'êtes pas en bio vous
Si,
êtes
on est en bio.
Ah, vous êtes en bio, voilà. Comment ça se passe pour être en bio? C'est des grosses contraintes?
Par rapport aux pratiques qu'on a, non, il n'y a pas de contraintes. Pourquoi elles mangent de l'herbe.
Parce que vous apportez pas, vous amenez pas un apport supplémentaire, quoi. Elles sont toujours à l'extérieur à manger d'herbe. Mais des fois, ça manque un peu. Donc, vous êtes obligé d'acheter des céréales.
On en achète un peu, mais alors c'est vraiment plus pour leur faire une petite gourmandise que les alimenter avec ça. Voilà, on achète. 5 tonnes par an, donc c'est très peu pour 20 vaches.
Et ça veut dire qu'elles se nourrissent toute l'année au pré.
Voilà. Mais donc c'est un peu notre critère de sélection. Il faut qu'elles valorisent les prairies naturelles, qu'elles nous fassent du lait avec ça.
Oui, mais alors il vous faut de l'espace quand même pour.
Oui, alors on a une cinquantaine d'hectares quand même pour 20 vaches, donc on est plutôt large.
Ah, c'est vrai.
Voilà.
Ouais, d'accord. On me disait il faut un hectare par vache, c'est ça? Vous êtes large. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et le local paysan, c'est un dépôt vente. Ça fait longtemps que tu fournissais le local paysan?
Alors moi, j'ai participé à la création du local paysan, les premières discussions, il y a quand même un petit paquet d'années maintenant. Parce que ça a ouvert en 2017, après un an et demi peut-être de préparation. De dossier d'ouverture. Après, j'étais plus qu'en dépôt-vente, évidemment, parce que trop de travail à la ferme, les enfants. Puis là, je reviens donc deux fois par mois faire des permanences.
On va te voir alors.
C'est ça, tout à fait.
C'est plaisant, ça fait plaisir. Ok. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vrai qu'il y a les enfants aussi. Tu as des enfants, c'est ça?
Oui, tout à fait, j'en ai deux.
Deux enfants, il faut s'en occuper aussi. C'est du travail, il faut s'occuper. Du coup, pas beaucoup de vacances?
Pas beaucoup de vacances. Ouais, donc chacun notre tour, mais ah ouais. C'est plus facile.
Okay. Il faut toujours quelqu'un sur l'exploitation.
Bah oui, pour faire la traite, il y a la traite toute l'année, donc.
Et vous prenez pas des personnes, des woofings justement, puisque
si on prend des woofers depuis 2 ans maintenant. Alors après, l'idée des woofers, c'est quand même qu'on soit à côté.
Bah oui, bien sûr.
Et puis après, selon les personnes, il y en a qui pourraient travailler en autonomie et d'autres beaucoup moins.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué pour tous. Merci beaucoup, Marion.
Merci.
Merci. Et puis un coucou à Jérôme aussi, s'il nous écoute. Et bon courage pour la suite. Et bravo, franchement, bravo pour tout ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Et puis c'est bon en plus. On peut le dire.
FDL. Rencontre.